J'aimerais parler sur « poussé par Dieu ». Dans Exode, chapitre 2, verset 1er, nous lisons « Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau. Elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de poix. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux, sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux, et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit « C'est un enfant des Hébreux ». Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant ?»« Va », lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit « Emporte cet enfant et allaite-le-moi. Je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant, et voici 2 Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Et cet homme répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous ? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse eut peur, et il dit, « Certainement la chose est connue. » Pharaon apprit ce qui s'était passé, et il cherchait à le faire mourir, Moïse. Mais Moïse s'enfuit devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian, où il s'arrêta près d'un puits. Le sacrificateur de Madian avait 7 filles. Elles vinrent puiser de l'eau et elles remplirent les auges pour abreuver le troupeau de leur père. Les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva, prit leur défense et fit boire leur troupeau. Quand elles furent de retour auprès de Réuel, leur père, il dit « Pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui ?» Elles répondirent « Un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers et même il nous a puisé de l'eau et il a fait boire nos troupeaux. » Et il dit à ses filles « Où est-il ? Pourquoi avez-vous laissé cet homme ? Appelez-le pour qu'il prenne quelque nourriture. » Moïse se décida à demeurer chez cet homme qui lui donna pour femme Séphora, sa fille. Elle enfanta un fils, qu'il appela du nom de Guershom, car, dit-il, j'habite un pays étranger. Amen. Quelquefois, nous ne comprenons pas pourquoi nous sommes dans tel endroit ou dans telle localité. Pour nous, ça n'a pas toujours de sens. On se demande par quelles circonstances, peut-être même certains se disent ben, « j'aimerais tellement mieux être ailleurs, j'aimerais tellement mieux vivre dans telle ville, sous tel climat qui serait plus favorable. » Et voilà, que Dieu nous a placés à un endroit et parfois nous ne savons pas pourquoi, nous ne comprenons pas pourquoi. Mais en tout cas, nous savons que Dieu sait ce qu'il fait et qu'il a un plan derrière pour notre vie. Nous ne le discernons pas toujours de suite. Mais les choses avançant, eh bien, nous pouvons le voir. Peut-être quelqu'un a quitté sa région d'origine et est venu ici sur la région de Toulouse, ou alors peut-être vous avez été contraint de déménager suite à un emploi et voilà qu'une mutation est arrivée et il vous a fallu arriver dans cette région. On voit en fait que derrière tous ces événements, on voit que Dieu nous pousse dans la bonne direction. C'est ce que je voulais voir avec l'histoire de Moïse. Moïse, si on parle de sa vie, on peut la répartir en 3 grandes parties. puisque les 40 premières années de sa vie, il a vécu en Égypte. Donc il a appris auprès de Pharaon et des Égyptiens toute la science de ce pays. Les 40 années suivantes, jusqu'à l'âge de 80 ans, il a vécu auprès de Jéthro, ici qui est appelé Réuel. C'est Jéthro, c'est le même personnage. Pendant 40 ans, il a gardé donc les troupeaux de Jéthro. Et puis les 40 dernières années de sa vie, il a conduit le peuple de la sortie d'Égypte jusque vers le pays de Canaan pendant les 40 années de désert. Alors, si on regarde les versets 1 et 2, déjà on se rend compte que Moïse est né dans un contexte ultra défavorable. En remontant un peu l'histoire, il faut revenir à Exode chapitre 1, on sait que c'est Joseph qui a eu une place très importante en Égypte parce qu'il a interprété les songes de Pharaon. Et il a fait venir toute sa famille, donc Jacob son père et puis ses frères, qui vont donc donner naissance aux tribus d'Israël. Et ils sont tous venus en Égypte, la Bible dit 70 personnes, car la famine était pesante dans le pays de Canaan. Et petit à petit, ils se sont installés et ils ont multiplié, ils ont fait des enfants, ils se sont développés, si bien que Joseph est mort et puis Jacob est mort, les frères de Joseph sont morts, et puis une nouvelle génération est arrivée, une nouvelle génération encore, et puis un nouveau pharaon qui, voyant cette population d'Hébreux ne cesser de croître, il a eu peur, il en a fait des esclaves, il en a fait des gens pour ses travaux. Mais je remarque dans l'Exode 1:12, c'est dit que plus on accablait le peuple d'Israël, plus il multipliait et s'accroissait. C'est là qu'on voit quand même qu'il y avait la main de Dieu sur ce peuple. Et c'est vrai pour nous, frères et sœurs, car même si nous sommes accablés, même si on est persécutés, eh bien, par la grâce de Dieu, l'œuvre de Dieu se fait au-delà de nos limites. La main surnaturelle de Dieu. Alors le pharaon a monté d'un cran dans le déchaînement de la violence et il a décidé de tuer tous les garçons qui naîtraient parmi le peuple hébreu. Et là encore, on voit la main de Dieu parce que les sages-femmes, la Bible dit qu'elles avaient eu la crainte de Dieu. Pourtant, les sages-femmes, c'était des Égyptiennes, c'est-à-dire des païennes. Elles ne connaissaient pas le Dieu de la Bible, mais peut-être elles en avaient entendu par le témoignage des Hébreux. Et elles avaient une certaine crainte de ce Dieu des Hébreux. Et du coup, lorsqu'elles arrivaient, eh bien, elles laissaient les enfants vivre et elles ne tuaient pas tous les garçons comme l'ordre de Pharaon l'exigeait. Alors, Pharaon a persévéré dans cette intention, dans cet ordre, et il a demandé à tous les Égyptiens, non pas seulement aux sages-femmes, mais à tous les Égyptiens, eh bien, à chaque fois qu'ils verraient un bébé ou un enfant hébreu, de le jeter directement dans le Nil pour qu'il meure noyé. Voilà, c'est dans ce contexte donc qu'on arrive au chapitre 2 de la naissance justement de Moïse qui est un petit garçon et qui est en quelque sorte condamné à mourir dès sa naissance. On pourrait dire, voilà, il est né au mauvais endroit, il est né au mauvais moment. Et certains pourraient dire la même chose, ils sont nés dans une famille où c'était difficile, peut-être une famille sans avenir, peut-être une famille de violence. On a reçu il y a quelque temps un homme qui s'appelle Yanis Gauthier qui a raconté son témoignage et combien dans son témoignage, son parcours, on voit que ben il a été rejeté, son père n'a pas voulu de lui, que il a été élevé par sa belle-mère mais qui n'avait pas d'amour pour lui, n'a pas donc été élevé dans un contexte favorable, il y avait de la violence autour de lui, il y avait de la délinquance, il y avait de la drogue, il y avait toutes sortes de vol, il était attiré par ces choses-là et il a grandi, on pourrait dire, dans le mauvais contexte, au mauvais endroit, et il s'est mis à faire des cambriolages et puis il s'est retrouvé en prison. Mais là où on voit la grâce de Dieu, c'est que la compagne qu'il avait, qu'il n'était pas encore marié, la compagne qu'il avait, elle a rencontré le Seigneur. Et à partir du moment où sa compagne a rencontré le Seigneur, alors qu'elle était embarquée aussi dans cette affaire, eh bien les choses ont commencé pour la vie de Yanis, parce qu'elle lui a témoigné, et lui, il a vu le changement chez cette femme, et alors qu'il était en prison, on pourrait dire que ce n'était vraiment pas le lieu idéal, ce n'était pas le contexte. Il ne venait pas d'une famille qui était portée à se tourner vers Dieu. Eh bien là, avec la Bible qui lui a été donnée, avec le témoignage qu'il a reçu, il a rencontré le Seigneur Jésus. Donc tout est possible à Dieu. Même si on est né dans un contexte défavorable, même si on est très loin de Dieu, dans la délinquance, loin du Seigneur, eh bien, le Seigneur peut permettre, par un moyen qu'on ignore, là ici c'était le cas de la femme avec qui il vivait, eh bien, de lui témoigner, et voilà, c'est une main tendue de Dieu pour lui dire, voilà, je ne t'ai pas oublié, je t'aime, tu as du prix à mes yeux, et tu n'es pas fait pour vivre dans la délinquance. Et aujourd'hui, eh bien, il a donné son cœur au Seigneur, il s'est fait baptiser, et il est devenu pasteur et même évangéliste, il sert le Seigneur maintenant de tout son cœur. Donc c'est le miracle de Dieu. C'est ce qui va se passer pour Moïse. Pour Moïse, il va y avoir un miracle. Dans Actes chapitre 7, verset 20, c'est dit que Moïse était beau aux yeux de Dieu, un bébé donc qui était extrêmement beau, et que Dieu avait son regard sur lui pour le bénir et le protéger. Sa mère a réussi à le cacher pendant 3 mois, et l'auteur aux Hébreux précise, pour une raison, c'est que cette femme avait la foi que Dieu allait faire quelque chose pour lui. Et quand nous sommes parents, que nous avons la foi pour nos enfants, ça va jouer. Hébreux 11, 23 dit « C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents. » Par la foi. Donc la foi de Jochébed, sa mère, Amram, son père, ont été décisives pour sauver la vie de cet enfant, sinon il serait mort sans aucun doute. Et voilà que nous sommes appelés à croire pour nos enfants, à prier pour nos enfants, à bénir nos enfants, afin que la main de Dieu aussi les touche. Bien sûr, ils auront leur choix, ils auront leur responsabilité par la suite. Mais en tout cas, Moïse étant tellement petit, lui, il ne pouvait pas encore croire à son âge. Eh bien, c'est grâce à la foi de ses parents qu'il a été sauvé de la mort. Le deuxième point, c'est au verset 3. Ce petit enfant, donc, qui n'a que 3 mois, va être abandonné sur le Nil. Et pour sauver son enfant, Jochébed n'a pas d'autre solution. Elle a construit une petite caisse en jonc qu'elle a enduit de poids, et puis elle a placé son petit enfant de 3 mois, c'est encore un petit bébé. Et je dirais, ce n'est pas le geste du désespoir d'une femme qui ne veut plus voir son enfant, parce que je retiens qu'elle le fait dans la foi. Donc elle prie en même temps que Dieu dirige cette petite embarcation, parce que ce n'est pas le hasard, ce n'est pas de la chance, mais Dieu va diriger toute chose. C'est Jésus qui dit, « Tout ce que vous demanderez avec foi, » donc ils avaient la foi, « par la prière, ils ont prié pour cet enfant, » eh bien, vous le recevrez. Après, c'est la part de Dieu qui va conduire les choses. Alors, la petite caisse de jonc, c'était une embarcation fragile. Elle aurait pu être renversée par une vague, un crocodile aurait pu l'attraper. Mais cette petite caisse de jonc, d'ailleurs, la mère, quand elle va la déposer sur le bord du Nil, elle ne sait pas vers où l'envoyer. Est-ce qu'il faut l'envoyer à gauche? Est-ce qu'il faut l'envoyer à droite? Est-ce qu'il faut l'envoyer tout droit? Et bien souvent, nous ne savons pas quelle est la meilleure direction. Pour elle, on va dire, toutes les directions sont bonnes, pourvu que Dieu sauve cet enfant. Eh bien, elle le fait. Donc, elle ne sait pas. Elle le fait, mais il faut le faire. Parce que Dieu sait ce qui est bon pour nous. Si on regarde Moïse lui-même, il ne peut rien faire pour sauver sa vie. Moïse est dépendant entièrement des parents, des personnes qui vont l'aider, mais lui-même, il n'a aucun moyen d'action. Et il va être poussé, en fait, non pas par Jochébed, parce que Jochébed va l'abandonner comme cela à Dieu, mais c'est Dieu qui va orienter, en fait, la petite embarcation de jonc pour aller dans la bonne direction. C'est pourquoi j'ai pris ce titre, « Poussé par Dieu ». En fait, cette petite embarcation a été poussée par Dieu et non pas par Jochébed. Dans le psaume 121, verset 8, voilà ce que Jochébed pouvait faire. « L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. » Elle prie pour que Dieu bénisse le trajet de cet enfant, que l'Éternel te bénisse. Elle abandonne son enfant à Dieu dans la foi. Elle ne peut plus rien pour lui, mais elle confie ce fardeau à Dieu qui peut tout faire. Et effectivement, quand nous en sommes là et que nous devons abandonner à Dieu des choses, il y a des combats dans notre pensée. Dans la pensée de Jochébède, elle peut se dire, mais cet enfant, il risque de mourir, il est en danger. Et peut-être la culpabilité d'abandonner son enfant, parce que quelle mère oserait faire une chose pareille? C'est tellement risqué en même temps. Il faut tellement avoir la foi, parce que l'embarcation peut couler d'un instant à l'autre. Alors, je crois que Dieu a permis qu'elle ait la paix de Dieu dans son cœur. Je crois que c'est ce qui est dit dans une des épîtres de Paul, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, qui va garder nos cœurs et nos pensées, parce que sinon, elle pourrait tellement être agitée, être angoissée. Au verset 4, il y a un troisième événement. C'est la sœur de Moïse qui intervient et qui va suivre la petite embarcation. Et la sœur de Moïse va être un élément très important pour Moïse. En fait, c'est un instrument entre les mains de Dieu. Elle aussi, elle va être poussée par Dieu pour dire « Mais moi, je veux voir qu'est-ce qui va se passer. » Parce que si elle était restée à la maison, elle n'aurait pas rencontré la fille de Pharaon. Et elle a été poussée, elle a été poussée, et elle a suivi, jusqu'à ce que l'embarcation arrive à l'endroit que Dieu voulait. En fait, elle veillait à distance. Elle ne pouvait rien faire, elle était aussi dans la prière, elle était aussi dans la foi. Mais nous savons que Dieu agit. Et il y a de nombreuses situations, frères et sœurs, où nous sommes comme cette petite fille, mais nous voulons savoir comment les choses vont tourner, mais nous sommes dans la prière et dans la foi. Et nous ne pouvons pas agir sur l'embarcation, mais nous prions que Dieu fasse son œuvre. Et elle le fait. Et pour nous, c'est un exemple, parce qu'elle va s'intéresser, en fait, mais qu'est-ce que va devenir mon frère? Elle s'intéresse aux autres. Et il y a un verset du Nouveau Testament qui dit « Veillons les uns sur les autres ». Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Voilà ce qu'elle fait. Elle veille sur son frère. Eh bien, veillons les uns sur les autres. Parce qu'elle a fait cette démarche, parce qu'elle s'est laissée pousser par Dieu, elle a écouté ce que Dieu a mis dans son cœur, eh bien, elle s'est trouvée au bon moment, au bon endroit, pour rencontrer la fille de Pharaon. On arrive à la quatrième élément, c'est au verset 5 à 10. C'est la fille de Pharaon qui, elle, ne le réalise pas parce que c'est une païenne. Elle vient tranquillement pour se baigner. Mais en réalité, elle a été poussée par Dieu pour qu'elle y soit au bon moment et au bon endroit du fleuve. Il ne fallait pas qu'elle arrive plus tard, il ne fallait pas qu'elle arrive plus tôt, mais il fallait qu'elle arrive pile quand le berceau, quand plutôt la petite embarcation de jonc arrive. Alors il fallait qu'elle se rende au fleuve, et c'est ce qu'on pourrait appeler le timing de Dieu. Il y a un timing de Dieu que Dieu connaît, qui nous échappe, et il peut même utiliser des non-croyants qui vont être pour nous des portes d'entrée pour aller plus loin. Et cette femme, qui ne connaît pas Dieu, eh bien, elle aurait tout à fait pu aller ailleurs à ce moment de la journée, elle aurait pu décider de faire autre chose, elle aurait pu aller à une autre partie, peut-être voyager en bateau, enfin faire complètement autre chose, mais c'était conduit par Dieu, il fallait qu'elle soit là, en tout cas, d'une manière ou d'une autre, il fallait qu'elle soit présente pour réceptionner la caisse de jonc. Alors cette femme, voyez, elle l'ignore, mais il y a des gens qui sont utilisés par Dieu dans notre entourage, ils l'ignorent. Mais c'est Dieu qui les place pour nous aider. Et ici, c'est pour aider Moïse, parce que Moïse, voyez-vous, il ne peut rien faire. C'est un simple bébé, il pourrait couler, il ne pourrait même pas nager pour se sauver, enfin, il est entièrement dépendant des autres. Alors, grâce à la main de Dieu qui pousse, vous voyez, d'un côté, il pousse la fille de Pharaon, il pousse la sœur de Moïse, il y a la rencontre qui va se faire, et du jour au lendemain, Moïse va se retrouver éduqué à la cour de Pharaon. Ça, c'est le miracle de Dieu, parce que même les parents n'auraient jamais pu penser une telle opportunité. C'est un Hébreu, donc il n'avait aucun accès parmi la cour de Pharaon. Il y a des choses qui nous paraissent impossibles, frères et sœurs, on se dit, mais on n'ose même pas y penser. Eh bien, Dieu, par des circonstances qui nous échappent, arrive à mettre en place les choses pour que le miracle se produise. Mais ça passe par des êtres humains, ça passe par nous. Alors, quand on voit la puissance de l'Égypte, construction gigantesque, les pyramides, encore aujourd'hui, les scientifiques ne savent pas trop comment ça s'est fait, tellement c'est énorme. Marie qui est là et qui se propose auprès de cette dame et lui dit « Mais si vous voulez une nourrice, je connais quelqu'un. » Et elle présente sa maman, la maman de Moïse, donc pour qu'elle s'occupe de son propre enfant. Vous voyez comment Dieu va conjuguer les choses pour que Moïse soit quand même élevé auprès de sa mère, sa vraie mère, et en même temps qu'il puisse avoir accès à la cour de Pharaon. Mais la petite fille, elle peut se poser des questions, parce qu'il fallait avoir l'audace pour aller voir là. C'est comme si on devait aller voir un ministre ou une personne haut placée, un président. Peut-être on est intimidé, puis c'est quand même une fille des Hébreux, c'est le peuple esclave. Est-ce que je vais être rejeté? Vous voyez, il y a les choses qui nous passent dans l'esprit. Est-ce qu'elle va m'écouter, cette femme? Est-ce qu'elle va accepter ma proposition? Est-ce que je vais être rejeté? Eh bien, elle y va. Et à un moment donné, il y aura toujours le pas de la foi à faire et de faire confiance à Dieu et de dire, ben, moi, je vais faire ma part. Et puis après, c'est la part de Dieu. Si elle refuse, ben, voilà. Mais si elle accepte, ben, Dieu le permet. Alors, Dieu avait résolu que Jochébed, sa vraie mère, s'occupe de Moïse. Et il a incliné le cœur de cette païenne qui aurait pu dire non. Non, non, moi je veux que cet enfant soit élevé par des nourrices égyptiennes. Eh bien, elle a dit oui. Eh bien, là encore, on voit que c'est Dieu parce que, si vous voulez, naturellement, elle n'aurait pas dû accepter parce que c'était quand même des esclaves, c'était des gens de basse condition. Alors, j'ai trouvé un texte dans Proverbe 16, verset 7, qui dit ceci. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. » Et ici, ça peut être des païens qui sont disposés favorablement à l'égard ici de Moïse pour le faire sortir de cette situation. Alors, elle le fait quand même. Elle accepte qu'une femme des Hébreux élève Moïse. Mais pourquoi elle le fait? Est-ce qu'elle sait pourquoi elle le fait? Je pense qu'elle est poussée par Dieu, c'est-à-dire que Dieu a incliné son cœur pour qu'elle décide cela, parce que peut-être que les autres lui disent « Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais une chose pareille ?» Mais elle a décidé de faire comme cela. Et certainement que Dieu est en fait au contrôle derrière les décisions de cette femme. Donc Moïse fut pour la fille de Pharaon comme un fils, et dans Actes chapitre 7 et au verset 22, il est dit que Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Il était puissant en parole et en œuvre. Pendant 40 années, donc, il a reçu le plus haut enseignement de l'époque. Il va apprendre, bien sûr, tout l'art de la gestion des Égyptiens, l'art de la guerre, toutes les choses qui étaient apprises à l'époque. Et certainement que par sa mère, il a appris aussi des choses sur Dieu, parce qu'il n'ignore pas complètement les choses de Dieu, mais pas suffisamment en tout cas pour bien connaître Dieu. En tout cas, il a quelques éléments. Et il sait aussi qu'il est d'origine des Hébreux et non pas du peuple d'Égypte. Il le sait par la suite. Donc voilà comment Dieu va changer la situation d'un homme qui, pendant 40 ans, va recevoir la plus haute instruction possible de l'époque. Mais ça ne va pas être suffisant pour qu'il soit utilisé par Dieu. Il va devoir encore être 40 ans formé au désert, à garder les troupeaux de Jéthro, son beau-père, pour pouvoir entendre vraiment Dieu lui parler. Mais Dieu a changé la situation parce que cet enfant qui est né dans un contexte défavorable, il devait mourir. Eh bien, il se retrouve du jour au lendemain à la table de Pharaon, élevé dans les plus hautes études de l'époque. Donc, qu'est-ce qu'a fait Moïse? Il n'a rien fait du tout. Simplement, c'est la grâce de Dieu. Et nous pourrons dire aussi que nous voyons la grâce de Dieu dans notre vie. Car qu'est-ce que nous avions fait? Nous étions loin de Dieu, nous étions perdus, nous étions des pécheurs, mais nous avons entendu l'appel de Dieu, nous avons saisi sa main. Mais c'est par grâce que vous êtes sauvés, dit Paul, par le moyen de la foi. La grâce, elle est pour tout le monde, mais la foi, c'est personnel. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, mais à un moment donné, on a dit « Oui, Seigneur, je veux bien croire. » et par la foi, par le moyen de la foi, on accède au salut. On arrive à la cinquième partie, c'est les versets 11 à 14. Il est dit ici que, en ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Moïse est devenu grand. Donc maintenant, il a 40 ans. Il a 40 ans et il a certainement augmenté ses connaissances. Il a grandi en expérience. Il a acquis la sagesse des Égyptiens. Mais il n'a pas tellement encore grandi dans la sagesse de Dieu. Ça sera dans la deuxième partie de sa vie, entre 40 et 80 ans. C'est vrai aussi dans la vie chrétienne. On peut, pendant des années, plafonner et rester assez immature. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, Paul en parle lorsqu'il dit « Pour moi, frère, » et il parle aux chrétiens de Corinthe, « ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, c'est-à-dire comme des enfants en Christ. » C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas développé une réelle communion avec Dieu malgré les années, les expériences. Ils étaient restés petits. On peut dire que Moïse avait grandi d'un côté, dans une certaine maturité sur le plan humain, mais il était resté petit dans les choses de Dieu. Il ne comprenait pas encore les choses de Dieu. Moïse sait qu'il est hébreu. Il sait que Dieu va l'utiliser pour quelque chose, pour son peuple, parce que c'est dit aussi dans Actes 7, 23, donc quand il avait 40 ans, il eut à cœur de se rendre auprès de ses frères. Donc il sait que les Hébreux, les esclaves, ce sont ses frères. Et Dieu a mis dans son cœur cette compassion pour son peuple. Et donc, lui aussi, il est poussé par Dieu à faire quelque chose pour libérer son peuple. Il veut que son peuple soit libéré. Ce sont les fils d'Israël, ce sont donc des frères de sang. Et Dieu va ainsi l'orienter. Mais, on a lu tout à l'heure, il a pris une initiative sans consulter Dieu, c'est-à-dire qu'il a vu un Égyptien qui maltraitait un Hébreu, il a voulu faire justice, il a tué l'Égyptien, enfin il a agi sans vraiment l'approbation de Dieu. Et après avoir commis ce meurtre, il a enterré l'Égyptien, croyant que personne ne l'avait vu. Mais les Hébreux avaient assisté à la scène et ça va se retourner finalement contre lui. Alors il pourrait se dire, maintenant que j'ai tuer un Égyptien, ça y est, je suis rentré dans la vocation de Dieu. La vocation de Dieu pour Moïse, c'était de libérer le peuple. Et on peut dire qu'il a commencé, c'est la première pierre, et peut-être que Dieu va bénir. Mais voyez, que Dieu n'est pas dans cette affaire. Et quand Dieu n'est pas dans notre entreprise, eh bien, ça va pas avancer finalement. Il va devoir fuir. C'est marqué dans Actes 7, 25, il était dans cet état d'esprit. Il pensait, Moïse donc, que ses frères, les Hébreux qui étaient esclaves, comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main, hein, par la main de Moïse, pas par la main de Dieu. Il est encore un peu dans l'orgueil, il est un petit peu dans la vanité de dire « moi j'ai reçu, maintenant vous allez voir comment on va sortir ce peuple-là ici, on va agir ». Mais les autres, le peuple, ils ne comprirent pas. Ce n'était pas le temps de Dieu, ce n'était pas la méthode de Dieu. Et ce texte aussi révèle qu'il y avait de l'orgueil qui devait être extirpé de son cœur pour qu'il soit malléable entre les mains de Dieu. Jésus nous l'a dit, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » C'est Jean-Baptiste qui dit, « Il faut qu'il croisse, Jésus croisse, et que je diminue pour laisser davantage de place au Seigneur. » Alors, si nous sommes comme Moïse, nous faisons les choses que Dieu a placées sur notre cœur, peut-être, mais nous les faisons de la mauvaise manière, au mauvais moment, sans l'approbation de Dieu, eh bien, est-ce que c'est à cause de l'orgueil? Est-ce que c'est à cause d'autres paramètres? En tout cas, Moïse va devoir être un temps à part, que Dieu va le placer au désert pour qu'il analyse tout cela. Et il reviendra une deuxième fois pour faire vraiment ce que Dieu voulait, mais d'une autre manière, avec les directives de Dieu. En tout cas, si nous le faisons comme Moïse, c'est-à-dire sans l'approbation de Dieu, bien que je pense que il avait vraiment dans le cœur d'aider son peuple. À la base, c'était une bonne chose qu'il voulait faire. Mais si nous agissons ainsi, bien nous aurons les mêmes conséquences parce que nous n'avons pas pris le temps de prier, nous avons agi avec précipitation, nous nous sommes trompés. En tout cas, nous nous sommes trompés dans les moyens d'action, dans le temps. Mais Dieu a vu quelque chose. C'est vrai que Moïse s'est trompé, mais il a vu que cet homme-là, il voulait faire quelque chose pour le Seigneur, donc il va quand même l'utiliser à un autre moment, parce qu'il avait besoin d'être changé. Vous voyez, dans Galates chapitre 6, verset 8, par exemple, Paul explique ce problème un petit peu de Moïse ici. Il dit « Celui qui sème pour la chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Et semer pour la chair, eh bien, c'est prendre des initiatives mais qui ne sont pas de Dieu, qui ne sont pas inspirées par Dieu, qui ne sont pas conduites par le Saint-Esprit, et ça va produire toujours des choses de la chair. Mais si nous nous laissons diriger par Dieu, eh bien, ça va produire des choses de l'esprit de vie. Alors effectivement, suite à cette première tentative d'avoir voulu libérer son peuple lui-même, eh bien, le lendemain, ne serait-ce que le lendemain même, alors qu'il veut aider deux Hébreux à faire la paix entre eux, les Hébreux lui disent « Mais qui t'a établi chef et juge sur nous? Pour qui te prends-tu? Est-ce que tu voudrais nous tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Et là, il sait qu'il est découvert, il sait que maintenant Pharaon va apprendre la chose, il n'a plus qu'à fuir. C'est donc un échec, mais il va fuir loin de l'Égypte. Cela lui fait très mal au cœur, parce qu'il a quand même le désir de bénir ce peuple et de faire quelque chose pour eux, mais il est rejeté par ce peuple. Mais en même temps, je remarque, c'est la dernière partie des versets 15 à 22, je remarque qu'en fuyant dans le pays de Madian, en fait, il est poussé par Dieu à aller dans cette direction. Il fallait qu'il quitte l'Égypte. Moïse ne le savait pas, il ne comprenait pas encore ces éléments, mais ce n'est pas en Égypte qu'il fallait qu'il reste. Pour pouvoir entendre la voix de Dieu, il fallait qu'il sorte de ce contexte. Alors, il doit partir. Les circonstances le poussent à partir. Mais il aurait pu aller dans n'importe quel pays, parce que, voilà, pourquoi aller plutôt à gauche qu'à droite? Mais il est allé à Madian. Mais c'était à Madian qu'il devait aller. Et là encore, on voit que c'est Dieu qui conduit. Et puis, il s'arrête au bord d'un puits. Mais ce n'était pas n'importe quel puits. Parce que c'est justement à ce puits que les filles de Jéthro viennent abreuver leur troupeau. Vous voyez comme quoi, quand Dieu veut faire rencontrer les personnes, bien, il dispose de toutes choses. Alors, ce qui est très important, c'est que parmi les sept filles de Jéthro, et c'est là qu'il va y avoir une rencontre décisive, il va y avoir celle qui va devenir son épouse par la suite. Et Moïse ne pouvait pas épouser une Égyptienne. Il fallait qu'il sorte de ce contexte et il fallait qu'il aille ailleurs. Et c'est là-bas, alors peut-être qu'il était dans un contexte défavorable, bien c'est là qu'il va rencontrer finalement son épouse. Alors que les sept filles de Jéthro arrivent, il y a des bergers qui viennent pour chasser ces filles, pour prendre leur place et abreuver les troupeaux avant eux. Et c'est là qu'on voit chez Moïse à la fois du courage et le sens de la justice, parce qu'il va s'interposer et dire « Non, vous laissez les premiers arriver, c'était les filles de Jéthro, vous les laissez passer d'abord. » Et comme il a une certaine force, une certaine autorité, eh bien, il va se faire respecter. Par la suite, on a vu qu'il va demeurer chez cet homme qui s'appelle Jéthro, et finalement, le mariage va se faire. Il va donc épouser Séphora. Séphora qui signifie « petit oiseau ». Voilà. Séphora va devenir son petit oiseau, et puis ils auront deux garçons. Il y a quelques années, lorsque j'avais terminé une colonie comme directeur à Gap, j'ai été poussé à rester par Dieu, mais j'étais poussé par Dieu. Je voulais rentrer, mais en même temps, j'étais poussé à rester. Et quelques temps après, Laurence, qui était une jeune fille, est arrivée. Elle était poussée par Dieu à venir à Gap. Vous voyez, on ne le savait pas. Et puis, paf, on s'est rencontrés comme cela, et Dieu a béni. Mais quelquefois, on est poussé à faire quelque chose, on ne sait pas pourquoi, mais c'est que Dieu sait ce qu'il y a derrière. Ouais. Donc, on s'est rencontrés, et puis on a pu se marier, etc. Moïse, lui, il était dans un contexte tellement négatif, meurtrier, fugitif, condamné à mort. Il n'avait pas d'avenir, mais Dieu avait un plan merveilleux pour sa vie. Vous voyez, et il va placer les choses pour que le plan s'accomplisse. Il fallait qu'il quitte l'Égypte. Il devait évoluer. Mais une chose est sûre, Moïse ne serait jamais parti de lui-même. Il avait le palais, il avait les avantages, il avait la gloire. Il fallait qu'il soit poussé hors d'Égypte d'une manière ou d'une autre. Et c'est comme ça qu'il a rencontré son épouse, c'est comme ça qu'il a fondé sa famille. Et ce n'est que 40 ans plus tard qu'il va revenir en arrière. Alors, peut-être vous posez la question, pourquoi est-ce que je suis né dans cette famille? Pourquoi est-ce que je suis dans cette ville? Qu'est-ce que je fais dans ce travail? Pourquoi est-ce que je suis dans cette église? Mais en réalité, si on discerne les choses, on verra comment on est poussé par Dieu, conduit d'un côté, de l'autre, parce que Dieu va mettre sur notre route les personnes qu'il faut et il va ouvrir des portes. Peut-être il va fermer des portes justement pour qu'on puisse aller dans la bonne direction. Parce que nous, on s'entête parfois à se dire « oui, il faut que j'aille dans cette direction, c'est là, absolument, c'est là ». Et puis, à chaque fois, la porte se ferme. Mais qu'est-ce que Dieu veut nous dire ? Il est en train de nous pousser, un petit peu comme Moïse a été poussé hors d'Égypte pour aller dans l'autre direction, c'était Madian. Alors, il fallait que des portes se ferment, que d'autres s'ouvrent. Mes frères et sœurs, ce n'est pas le hasard. En réalité, nous voyons la main de Dieu derrière toutes ces choses, parce que c'est Dieu qui est en train de placer. On va prier un instant. Merci encore pour ta parole. Où nous voyons que dans la vie de Moïse, ce n'est pas une succession de hasards, ce n'est pas de la chance, mais c'est que toi, tu as poussé Moïse à aller dans la bonne direction, que tu as dirigé les choses, que tu as posé ta main pour que le miracle s'accomplisse. Oui, Seigneur, ce matin, nous sommes dans la prière, dans la foi, mais il y a notre part, c'est de croire, il y a notre part, c'est de prier, mais ta part à toi, Seigneur, c'est de nous pousser dans la bonne direction. Et nous voulons nous laisser diriger par toi, Seigneur, ne pas résister à ta volonté, ne pas résister à ce que tu mets dans notre cœur, mais être à l'écoute de tout ce que tu veux nous dire et agir selon ce que tu veux. Dans le nom de Jésus, nous te rendons toute la gloire. Amen. Amen.